Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir. Suite de notre soirée spéciale après l'annonce de la formation du premier gouvernement Macron ou premier gouvernement Philippe, c'est selon, avec une question, cette nouvelle équipe est-elle la bonne pour remporter les législatives à venir et puis pour mener les premières réformes dont la fameuse loi de moralisation de la vie publique sur laquelle planchera François Bayrou dès demain matin, il l'a dit lors de la passation de pouvoir il y a quelques minutes. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Olivier Roucan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous avez fait l'amitié de rester sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques et vous êtes l'auteur d'En finir avec le président, paru aux éditions François Bourin. En face de vous, Thibault Rioufray, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en sciences politiques à Sciences Po Lyon, auteur des socialistes français face à la troisième voie britannique vers un social-libéralisme à la française qui est paru aux éditions Presse de Grenoble. Alors le quinquennat d'Emmanuel Macron est-il bien lancé? C'est notre débat de ce soir. Bienvenue. Thibault Rioufray, cette équipe, donc on l'a dit, hein, qui est paritaire avec beaucoup de membres de la société civile, est-ce qu'elle vous semble de nature à contenter les électeurs d'Emmanuel Macron et plus largement les Français, avec évidemment en ligne de mire ces législatives qui arrivent début juin?
Pour répondre à votre question, je dirais si l'idée de le renouvellement des têtes, il est partiellement réussi, avec le risque néanmoins que les nouvelles têtes soient aussi des têtes assez peu connues et des gens notamment qui ont plutôt une expérience dans le privé, on l'a vu, ou des gens qui sont plutôt avec un profil techno. Donc c'est moins une question de compétences. Je me pose simplement la question sur la relation avec le Parlement. Donc on a vu quand même que Castaner a été désigné pour les relations avec le Parlement, mais
donc un proche d'Emmanuel Macron,
exactement,
qui est là depuis le début.
Dans En Marche, etc. Mais donc simplement un profil très techno et quelques classiques, on va dire, comme Bayrou ou comme le baron local Gérard Collomb, ça fait quand même une équipe qui n'a pas une grande habitude de cette négociation-là, de ces navettes-là, notamment avec le Parlement. Donc à la fois renouvellement des têtes, oui, mais ça risque de poser un problème pour l'après, quand même.
À double tranchant, en fait. C'est
séduisant,
mais on ne sait pas si dans la mécanique des institutions, ça va fonctionner. Olivier Roucan, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Vous dites, renouvellement, c'est plutôt bon, les Français en avaient besoin, dans toutes les enquêtes, ils le disent, la société civile est très attendue aujourd'hui.
Il y a une cohérence qui, à mon avis, sera perçue par l'opinion publique et les électeurs, une cohérence de la démarche depuis le début. Ceci dit, le risque mentionné existe. Alors, peut-être peut-on quand même remarquer, d'une part, que les candidats investis à la législative sont également énormément renouvelés. Donc il va y avoir des néophytes aussi à l'Assemblée. Donc des néophytes ministres pourront sans doute mieux dialoguer et mieux, trouver des soutiens auprès de députés qui débutent. Et puis deuxième point, ce gouvernement inclut, au-delà de Gérard Collomb, au-delà de Castaner, il y a quand même Ferrand, et puis il y a le patron du groupe au Sénat, qui est un groupe qui date de 1800, du 19e siècle, qui s'appelle Jacques Mézard. Donc il y a aussi là l'expérience, et c'est pas neutre à l'agriculture.
Mais alors là, vous parlez presque déjà d'après les législatives. Est-ce que votre crainte, Thibault Rioufret, elle est aussi avant les législatives? Est-ce que ça peut se ressentir concrètement dès demain, cette inexpérience de cette société civile qui arrive au pouvoir? Est-ce que vous le craignez déjà à court terme?
Bon, les échéances sont quand même relativement courtes, donc sauf quoi que assez magistral, je suis pas sûr que ça se révèle tant que ça. Ça sera plutôt un peu après. Et puis il faut voir comme un élément, c'est certes il y a des néophytes, les fameux 50% dans la société civile, dans les investitures d'En Marche. Mais ce que je constate, c'est que quand on regarde la carte électorale d'assez près, beaucoup des néophytes sont dans les circonscriptions les plus difficiles. Donc on voit quand même que ceux les plus expérimentés ont eu les circonscriptions les plus atteignables. Donc c'est pour ça que la relation avec le Parlement va être compliquée. Et après la question, c'est effectivement, est-ce que c'est le meilleur gouvernement pour gouverner ou est-ce que c'est le meilleur gouvernement en attendant les législatives? Et ça, c'est une deuxième question un peu différente. Mais
et alors votre réponse serait laquelle?
Pour gouverner, ça va être compliqué, je pense, avec le Parlement, quelle que soit la majorité. Et pour les législatives, finalement, la difficulté, c'est cette tension pour Emmanuel Macron. Le renouvellement d'accord et en même temps il faut arriver à arracher une partie de Les Républicains. Et de ce côté-là, certes, on a un juppéiste, le Premier ministre, un proche de Xavier Bertrand et puis le maire. Cela étant dit, pour l'instant, le PAC Les Républicains est relativement solide, donc il y a des appels du pied, mais on voit bien...
Il y a eu quand même beaucoup de signataires à cet appel à saisir la main tendue d'Emmanuel Macron. Olivier Roucan, comment est-ce que vous saisissez un petit peu ce qui se passe à droite aujourd'hui? Vous êtes d'accord, le PAC n'est pas vraiment fissuré, il y a encore une droite, Les Républicains, très forte et très unie, ou bien Emmanuel Macron a en partie réussi son pari?
Quand on pense future majorité parlementaire, on pense forcément les éléments les uns par rapport aux autres. C'est une pensée relative qu'on adopte. Donc Les Républicains sont pour l'instant moins divisés et fracturés que ne l'est le Parti Socialiste, c'est un fait. Et donc on peut remarquer en effet que ils semblent plus cohérents. Mais malgré tout, ce qui s'est passé ces derniers jours enfonce un coin dans la défense, j'allais dire. Ça se lézarde. Si ce bruit et cette dynamique s'amplifient dans les jours qui viennent, parce que malgré tout, même s'ils sont peu nombreux, ils ont la place forte, hein, Bercy et le budget. Dans la période actuelle, c'est tout sauf secondaire. Eh bien, certains élus, les Républicains, pourraient se laisser séduire. Bon, donc ça, c'est en effet ce qui est en jeu dans la campagne des législatives, entre autres. Et il est vrai que, pour revenir à ce qui a été dit, ce gouvernement-ci est un gouvernement d'opinion publique qui marque la cohérence de la démarche d'Emmanuel Macron pour essayer d'avoir un effet moteur pendant les législatives.
Ensuite... C'est ce que j'allais vous demander finalement. Est-ce qu'aujourd'hui les électeurs, alors c'est un peu difficile de dire électeurs de droite aujourd'hui puisqu'on voit que le paysage est en train de changer, mais dis donc traditionnellement de droite qui donne traditionnellement leur voix aux Républicains avant à l'UMP, au RPR, est-ce qu'ils sont sensibles à ce débauchage ou est-ce que finalement le côté renouvellement est plus intéressant pour eux, Olivier Roucan?
Je pense qu'ils peuvent être sensibles. Une partie de l'électorat qui a vécu de droite, hein, qui a vécu la campagne et préalablement les primaires du reste, qu'on oublie trop vite. Donc cet électorat lui-même est malgré tout sans doute aujourd'hui une partie est assez divisée et voire une partie assez en retrait par rapport à la campagne qu'a menée François Fillon. Pourrait une partie, mais laquelle, c'est tout l'enjeu, suivre. Hein. On l'entend en discutant. Ensuite, il faudra voir les enquêtes d'opinion et surtout le résultat législatif. Mais cette possibilité existe et c'est bien la raison pour laquelle elle a été identifiée. C'est bien la raison pour laquelle Emmanuel Macron et le Premier ministre tiennent cet axe de départ et droite et gauche.
Alors, voilà pour la recherche de l'électorat de la droite. Il y a aussi le pari d'aller rechercher l'électorat de la gauche. De ce point de vue-là, Thibaut Rioufray, est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Macron a cassé la gauche, hein, c'est un petit peu la formule consacrée, ou il avait des gages à donner avec ce gouvernement?
Casser la gauche, je sais pas. Casser le PS, il l'a largement fait en fait déjà dans les transferts de voix dans le premier et dans le deuxième tour. Donc l'opération est réussie plutôt vis-à-vis du PS.
Mais depuis, il y a eu la nomination d'Édouard Philippe, qui est un homme de droite. Est-ce que ça n'a pas refroidi certains électeurs de gauche qui avaient voté Macron?
La question qui va se poser, c'est va être surtout comment le Parti Socialiste arrive à se sortir de cette situation où, à sa gauche, avec notamment la création de Dès Demain, de Taubira, Martine Aubry, Anne Hidalgo, et puis la tentative de Hamon de lancer bientôt son mouvement, est-ce que finalement ces forces-là vont réussir à l'éclater ou pas? Moi, je suis assez dubitatif, pour être tout à fait honnête. Je pense que le PS est d'abord une fédération d'élus locaux. Il faut pas l'oublier. Et qui a un ancrage local extrêmement puissant. Je donne juste une anecdote. Moi, j'ai quand même fait pas mal de terrain un peu ethnographique et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'appels en off dans les fédérations socialistes auprès de militants et de sympathisants à voter Macron dès le premier tour. Mais la même personne qui a donné ces instructions va dire votez PS parce que c'est pour mon renouvellement lors des législatives. Et là, on va avoir un effet de surprise. Il y a eu beaucoup de socialistes qui ont dit votez Macron là, ça nous permettra de recomposer le PS.
Donc en fait, paradoxalement, on a beaucoup dit qu'Emmanuel Macron avait réussi à tuer le PS très très vite. Finalement, c'est pas si vrai. Mais par contre, sur la droite, vous êtes plus modéré. Olivier Roucan, vous êtes d'accord finalement, le Parti Socialiste a tué au niveau des législatives, c'est pas gagné?
Non, j'ai pas gagné. C'est un parti, en effet, qui dispose encore, même après les défaites de 2014 et 2015, d'un réseau local. Il y a également, on parlait tout à l'heure des députés néophytes, il y a toujours quelque part une prime au sortant, parce que ça rassure, dans certaines circonscriptions où traditionnellement la gauche est bien implantée, le sortant socialiste a encore toutes ses chances, ça c'est clair. En même temps, malgré tout, Macron a-t-il réussi à casser le PS, c'était votre question. J'allais dire que le PS était déjà bien cassé ou en voie. Donc, si vous voulez, il y a cette réalité, c'est que dans certaines, il y a une baisse du militantisme. Hein. Vous parliez du militantisme, mais il y a quand même une baisse incroyable du nombre de militants. Il y a des sections qui sont aujourd'hui vides, y compris dans des terroirs qui sont
des
très traditionnels.
Socialistes.
Oui, oui. Et donc, ça veut dire que l'électorat, hein, quand les militants désertent, l'électorat, il est encore plus éloigné. Donc, il pourra être lui aussi tenté ou de s'abstenir ou de suivre son vote de premier tour. Hein, 50% de sympathisants socialistes, pas de militants, de sympathisants qui ont voté Macron, bon, ben, ils pourront se dire, en dépit de la nomination d'Édouard Philippe et des ministères de la droite, comme un peu cet électorat de droite déboussolé, bon, ben malgré tout, il faut donner une chance, puisqu'on est attiré par une régénération, un renouvellement, donnons une chance. Bon, le tout est de savoir la part. Donc, les jeux ne sont pas faits.
Donc, si je vous suis bien, finalement, rien n'est joué pour les législatives. Ce gouvernement de recomposition est peut-être pas le plus convaincant, c'est ça ?
Je pense que ça dépasse largement la composition du gouvernement. Là, en l'occurrence, on est dans beaucoup de circonscriptions avec des possibilités de triangulaires, voire de quadrangulaires. Donc on est dans une situation là où vous avez quatre pôles. Quatre pôles inégaux, variables, mais qui sont réels. France Insoumise, le PS malgré tout, En Marche, le PS, on ne sait pas trop comment justement il va y avoir des transferts de voix, Les Républicains et le Front National. Donc là, il y a un effet de seuil, il y a un effet du premier arrivé, ça va se jouer à très peu de choses. Donc là, en l'occurrence, nous sommes une sorte de laboratoire à ciel ouvert, et je pense qu'il y a un effet loupe des primaires et un effet des présidentielles qui ne nous permettent pas toujours de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Ça a faussé un petit peu la donne, donc rien n'est absolument fait là-dessus.
Et juste pour compléter le propos, il y a la contrainte institutionnelle, le 12,5% des inscrits pour être au second tour. Si vous avez donc une abstention forte, ça va faire 20% des exprimés, donc moins de triangulaires et de quadrangulaires que prévu. Et on peut retrouver sur une partie du territoire le jeu traditionnel à ce rythme. Donc ça va être très circonstancié. Aujourd'hui, avoir une vue globale et statistique me semble très ambitieux, parce que ça se joue vraiment, comme il a été dit, dans des circonscriptions, dans des terroirs, au vu de paramètres qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui datent d'hier. Et donc, il faut faire très attention. Et puis, il y a un autre point, c'est le nombre de candidats. Vous avez des circonscriptions, vous avez 20 candidats.
Oui, alors effectivement, ça complique encore plus les calculs. Je voudrais qu'on en revienne, si vous le voulez bien, à la formation de ce gouvernement. Thibaut Rioufray, comment est-ce que vous lisez la forte présence d'europhiles ? Il y a évidemment François Bayrou, Maëlle de Cernay, Sylvie Goulard, qui est ministre des Armées. Est-ce que pour vous, ça veut dire que, contrairement un petit peu à ce qu'avait dit Emmanuel Macron, qui avait parlé de lancer le grand chantier de l'Europe après les législatives, ça pourrait venir plus tôt ? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre ?
Je pense que c'est surtout le révélateur du fait qu'il a affiché la couleur, à savoir que lui, c'est le clivage progressisme-conservateur et non plus gauche-droite. Conservateur de gauche qui défend les acquis sociaux, conservateur de droite qui serait proche de Fillon, d'une tradition, des mœurs, etc., un peu plus moraliste. Et que dans ce cadre-là, l'Europe est un curseur. Et le curseur déterminant. Donc c'était là, pour le coup, il y a une vraie continuité par rapport à la campagne sur l'Europe. Il va continuer là-dessus. Et je pense aussi qu'il y a un coup d'avance. C'est-à-dire qu'il sait que, à la limite, c'est juste un gouvernement en attendant les législatives. On pourra toujours changer la donne, mais...
Ils l'ont dit, il y aura peut-être des ajustements après les législatives.
À l'échelle internationale, c'est un signal non négligeable dans le cadre de négociations qui vont très vite arriver. Et je pense qu'il y a une dimension tactique européenne aussi, et pas seulement franco-française.
Olivier Roucan, vous êtes d'accord avec cette lecture pas franco-française ?
Non, c'était évident, et notamment dans le switch fait par Jean-Yves Le Drian, qui passe de la Défense à un ministère dit de l'Europe des Affaires étrangères, alors que la députée marquée Europe, Sylvie Goulard, est à la Défense. Donc on voit bien là que des ministères jugés régaliens, statuts nationaux, sont revus, corrigés dans la perspective d'un engagement européen.
Surtout qu'on dit beaucoup, ça fait partie des grandes critiques formulées à l'égard de l'Europe, il manque cette dimension défense européenne, transnationale, ça pourrait être ce que va porter Sylvie Goulard.
Voilà, notamment, sans oublier les questions budgétaires qui vont avec, puisque la France paie la défense européenne, selon certains, et on voit là qu'il y a des négociations qui, à mon avis, vont arriver sur la mutualisation de ce coût.
Alors, il y a aussi évidemment cette grande loi sur la moralisation de la vie publique qui est portée par François Bayrou. C'est un petit peu la grande condition de son ralliement. Il est dans les ministres d'État du gouvernement, ministre de la Justice. Il y a aussi, on l'a dit, oui, il y a François Bayrou, pardon. Et Emmanuel Macron avait dit que ce serait l'une de ses priorités. Ça va être fait très vite. Est-ce que ça, c'est un argument de campagne pour les législatives, Thibault Rioufret?
Pour la législative et puis pour l'après. Je crois que dans toujours cette stratégie de dire je ne recycle pas simplement, je veux refonder non seulement le système politique, les partis, mais aussi l'image du système politique. Non seulement c'était un deal avec Bayrou qui était prévu, mais je pense que c'était tout à fait dans son intérêt de paraître rénovateur. Cela étant dit, quand on regarde le détail de pour l'instant de la loi, il y a quand même un retrait au point que les instances en charge de la transparence de la vie publique en France à l'heure actuelle disent il y a encore des manques. Il y a encore un certain nombre de choses sur le quitus fiscal des députés. Donc, on voit que c'est finalement beaucoup de la com, mais dans les textes, beaucoup moins radical que ce qu'on aurait pu attendre par rapport aux annonces.
Et en plus, Olivier Roucan, Édouard Philippe, l'actuel Premier ministre, n'avait pas voté la loi sur la transparence de la vie publique. C'est quand même un signal un petit peu ambivalent.
Oui, bon, on peut reprendre les déclarations des uns et des autres ou les comportements des uns et des autres sur toutes les questions dans les mois et les années qui ont précédé. Il y a un tel changement qui se produit que, bon, mettons qu'on oublie tout ceci, mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que cette loi, lorsqu'on regarde ne serait-ce que le thème de l'interdiction éventuelle d'employer un membre de la famille ou quelqu'un avec qui on aurait des relations, ne serait-ce que ceci, juridiquement, va être très difficile à caler. Hein, parce que où s'arrête et commence la famille? Comment empêcher les tractations? Bon, j'ai pas le droit d'embaucher ma femme, mais toi tu vas l'embaucher pour moi et moi j'embaucherai ton cousin. Donc les fameuses relations croisées, ça c'est un des points. Le deuxième point, si vous empêchez le conseil, eh bien est-ce que, enfin le cumul hein, avec du conseil, est-ce que vous ne rendez pas plus difficile encore la perfusion entre le privé et l'accès à une fonction politique? Parce que quand on est fonctionnaire, on peut retrouver. Quand on est et on peut donc bénéficier de dispositions du statut pour faire de la politique. Mais le privé, non. Donc, il faut faire très attention. Ça va être très complexe et c'est une loi qui va être difficile et risquée. Et donc là, ce qui est bien vu aussi, c'est de mettre François Bayrou sur cette affaire parce que je dirais pas qu'il arrive en fin de vie politique, mais dans tous les cas, on peut penser que il va prendre les risques, les assumer, parce que pour la suite, une fois qu'il aura fait cette loi, eh bien, ses ambitions, disons, seront relatives.
Et en plus, il l'a dit, hein, lors de la passation de pouvoir, il a dit « je m'y mettrai dès demain, avant les législatives, le texte sera présenté ». Donc effectivement, c'est l'une des priorités. Thibault Rioufret, est-ce que c'est quelque chose que les Français veulent après la campagne qu'on a connue? Évidemment, l'affaire Fillon qui est là, en filigrane, qui traîne. C'est quelque chose d'important qui va être un curseur?
C'est important. Quand on leur pose la question générale, est-ce que vous êtes pour plus de moralisation de la vie publique, on connaît pas beaucoup de gens qui sont contre. Mais dès qu'on rentre dans les détails, par exemple, la création d'un statut de l'élu, qui permettrait précisément à des gens qui prennent des risques en venant du privé, font des expériences gouvernementales ou d'élus, puis pourraient revenir là. Là, vous voyez que les Français disent, bah voilà, on va continuer à leur financer la retraite derrière, à leur donner de l'argent. Donc, si vous voulez, les raisons pour lesquelles il faut une moralisation de la vie publique, ou plus exactement de la transparence et un vrai contrôle, là, les Français sont plus ambivalents dès qu'on rentre dans certains détails. Par contre, il y a quand même des items clairs. Sur les emplois familiaux, je pense que là, les choses sont à peu près claires. Il faudra voir après, encore une fois, très précisément sur la fiscalité, et notamment les déclarations fiscales, sur l'honneur ou pas, le contrôle ou pas. Et ça, là, par contre, les Français sont extrêmement attachés. On a des enquêtes quantitatives et qualitatives très claires sur ces points-là.
Très sévères sur ce point-là.
C'est inaudible et inentendable à l'heure actuelle qu'on en soit encore là pour la plupart des Français.
Vous êtes d'accord, Olivier Roucan?
Oui, et puis c'est ancien. C'est très ancien. Enfin, une partie de cette méfiance qui n'a cessé de monter depuis au moins 20-25 ans par rapport au personnel politique est en partie fondée sur ces questions. Et l'indicateur sur pensez-vous que le personnel politique est honnête ou corrompu avec des taux de ressenti de corruption qui sont supérieurs à 65-70%, ça date d'il y a très longtemps. Donc c'est un enjeu, finalement, dès la fin des années Mitterrand, ça devient une préoccupation constante et ça n'a cessé de se dégrader.
Eh bien, merci beaucoup. On restera sur ces mots. C'est la fin de ce débat. Merci à Olivier Roucan, politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques, auteur d'En finir avec le président, paru aux éditions François Bourin. Merci à vous, Thibaut Rioufray, professeur en sciences politiques à Sciences Po Lyon, auteur de Les socialistes français face à la troisième voie britannique vers un social libéralisme à la française aux éditions Presse Grenoble. Merci également à Florence Ponce, à Ludivine Amado. Tout de suite, c'est un nouveau journal.